J'ai effectué un court voyage en Allemagne, devant la 100e maison à toit pentu, la 10e échoppe bien tenue, la 3e église en pierre sombre, devant les pierres tombales en grès rouge et à caractère arrondi du cimetière. J'ai eu une révélation très nette. L'Allemagne, ce n'est pas un pays, c'est un continent géographique, un continent historique, et ce continent, c'est le Moyen-Âge. Un Moyen-Âge à ce point idéalisé qu'il a fini par tenir lieu de constitution secrète à la nation rhénane. Le Moyen-Âge comme nation, l'idée que toutes les choses bien faites semblent boîte gracieusement, le Moyen-Âge comme nation, un sentiment d'achèvement, des fenêtres bien peintes aux pelouses bien propres, un sentiment de grâce permanente, si la grâce était quelque chose de fade et de monotone, une sorte de régularité concédée à la vie bonne, de régularité comme récompense. Si vous tenez bien vos maisons, vous aurez à la fin de belles pierres tombales et des audits entre les deux. Le Moyen-Âge comme nation, l'idée d'un achèvement quelconque de l'Occident dans les rues du premier bourg venu, d'un paradis modeste pour urbanistes prudents, non seulement tous les feux tricolores fonctionnaient à Sarrebruck, mais même leurs signaux sonores, système de redondance destiné aux aveugles, tintaient impeccablement dans la petite ville. Mais d'aveugles, je n'en ai pas vu un seul, comme si ces tintements étaient là seulement pour en éterniser le souvenir médiéval. Je n'ai pas vu d'enfant non plus d'ailleurs, et même pas un cri, en passant devant un gymnasium, pas d'enfant, comme dans le conte médiéval du joueur de flûte de Hamelin. Et médiéval encore était l'énorme farce posée au milieu de la ville. La Sarre, longtemps occupée par les troupes françaises, devait finalement voter en 1935 son rattachement au Reich et se voir offrir, pour l'occasion, par le Führer, un très élégant théâtre néoclassique dessiné par Speer. Je pourrais longuement décrire ses aspects palladiens, mais je préfère faire court. Ce bâtiment a la forme d'un gigantesque oops. Un oops d'autant plus visible que la guerre en a nettoyé les abords, et comme partout en Allemagne, ses quartiers détruits et déblayés par les bombardements aériens et reconstruits après-guerre, malgré la modernité de leurs immeubles et la rationalité pleine de vide de leurs plans, ont gardé quelque chose des anciennes places médiévales. La foire annuelle qui s'y tenait a seulement été remplacée par des magasins d'électronique, des librairies géantes et des supermarchés bio. J'ai acheté un bretzel et je suis rentré dans un magasin Lego où m'attendait la maquette d'une pelleteuse pneumatique Lieber, aussi grise que mon bretzel était salé. J'étais bien en Allemagne. J'associe d'ailleurs, depuis ma visite au musée de la Renaissance d'Écouen, l'Allemagne à ce genre de prouesse technologique miniature. On trouve là-bas la nef de Charles Quint, un galion mécanique d'une sophistication presque inimaginable, assemblé à la Renaissance par un horloger Swab. Mais plus impressionnant encore est là-bas le banc à tréfilé d'Auguste de Saxe. Il est vertigineux de se dire qu'une simple machine-outil ait pu un jour être aussi belle que celle-là. C'est la Joconde des machines. Je pense cependant qu'on se tromperait en parlant pour l'Allemagne de Renaissance. Même cette Allemagne-là, qui est aussi celle des gravures de Dürer, aucun monde nouveau n'est annoncé ici, mais seulement le perfectionnement infini et presque orientalisant du monde médiéval, l'acier damassé de cette machine. C'est lointain de Dürer qui pourrait illustrer les contes des mille et une nuits. C'est la vision éternisée d'un Moyen-Âge qui serait si parfait qu'il aurait pu ne jamais finir. Goethe lui-même, le génie parfait des Allemands, n'est pas un homme des Lumières, ou bien pas de celles que l'on croit. Ces Lumières sont celles de la Renaissance cistercienne, d'un fantasme retrouvé d'unité organique et charnelle de l'homme avec le monde. Je me disais tout ça dans la petite ville frontalière et un peu ingrate de Sarrebruck. Quand j'ai regardé le nom de la rue, j'étais dans la Martin Luther Strasse. Il y avait bien eu une Renaissance en Allemagne, c'était la réforme luthérienne, mais j'ai eu comme un doute sur la chronologie communément admise qui fait de la contre-réforme une réponse à la réforme. Et si Luther n'était pas plutôt la réaction de l'Allemagne à un risque imminent et plus terrifiant encore que tous les feux du ciel plus tard déversés sur les villes d'Allemagne pendant l'opération Gomorre, le risque terrifiant d'une modernisation soudaine, d'une victoire imprévue et tardive de l'évêque de Rome qui impliquerait la dissolution rapide des derniers fiefs de l'Europe médiévale.